vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. Bonjour, oui, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. Et comme par hasard, un hasard qui fait bien les choses, en ce mois de septembre, eh bien, je vais parler de la souffrance. Acceptée ou non, elle se trouve au cœur des livres que je présente. Il y a celle donnée par les hommes ou le diable, comme la Shoah avec Simone Veil, soit celle donnée suite à une très grave maladie, autre que la tuberculose, qui sera tout de même abordée dans cette rubrique. On peut alors la soigner ou la refuser, sans espoir, par le suicide réel ou assisté. Puis il y a aussi l'amour, celui que Jésus donne sur sa croix, alors qu'il va mourir, eh bien, il y a l'espérance, il souffle l'espoir qui l'emporte sur la maladie et la mort. C'est donc une très forte rentrée littéraire que je vous propose. Et je commence par deux récits témoignages exceptionnels. Le premier, pour les générations futures, de Simone Veil, une postface très importante de Dan Harbib et qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est une édition remarquée et remarquable pour fêter cet événement, puisque elle est morte, Simone Veil, mais par ce livre, on a l'impression qu'elle est toujours vivante parmi nous. Le deuxième livre, « L'amour coûte que coûte », c'est de Claire Dirks, paru au Cerf, et qui vient, un récit qui vient venu de Belgique, jusqu'à nous. Ensuite, en troisième position, il y aura un roman, intitulé « Hôtel Roma » de Pierre Adrian, paru chez Gallimard, parce que le 27 août 1950, César Pavès se donne la mort dans la chambre 49 de l'hôtel Roma à Turin. Il laisse un mot d'excuse « Je pardonne à tous et à tous je demande pardon. Ça va ?» point d'interrogation. Pas trop de bavardage et s'arrête là. Ce seront ses dernières paroles. Pierre Adrian a retracé le dernier été d'un écrivain hanté par le suicide. Passionné, il nous donne envie de le lire ou de le relire. Le quatrième roman, L'île du Lao, est de Adrien Borne, paru chez Jean-Claude Lattès, un roman qui attire l'attention sur le plateau d'Assy, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était un sanatorium réputé. En cinquième position, après un repos musical, il y aura La vie meilleure, de Étienne Kern, paru chez Gallimard, qui nous fait toucher presque du doigt la vie de Émile Coué. Et puis, en sixième position, L'invisible Madame Orwell de Anna Funder, une grande romancière australienne qui enquête sur la vie de cette femme invisible qui s'appelait Hélène O'Shaughnessy, d'origine irlandaise, mais qui vivait en Angleterre, à Londres. Première femme de Orwell, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et je pense terminer par un septième roman, L'Italien, de Arturo Pérez Reverte, un grand écrivain que j'aime beaucoup, Arturo Pérez Reverte, qui va paraître chez Gallimard, une construction magistrale pour ce roman qui mêle histoire et fiction et amour. Voilà. Donc je commence par le premier, pour les intitulés, pour les générations futures de Simone Veil, avec une postface très importante de Dan Harbib. Dan Harbib qui est maître de conférences en philosophie à la Sorbonne Université, et qui connaît très bien la vie et l'œuvre de Simone Veil et qui avait reçu Simone Veil quand elle était encore vivante. Et dans ce livre, Simone Veil s'adresse à nous tous directement en parlant de la Shoah. Si la Shoah vous obsède nécessairement, dit-elle, elle m'obsède encore davantage. Car la Shoah a souillé notre mémoire d'une tache indélébile, souillé notre langue, notre imagination, notre âme, l'identité juive et l'identité humaine. Notre avenir même en est infecté, et celui de nos enfants. Elle hante nos nuits, elle hante nos jours. C'est une idée fixe et c'est un cauchemar. Alors, comme c'est une grande dame, elle ajoute, nous songeons que l'avenir sera sans doute moins sombre si nous nous rendons au devoir qu'elle nous fait, un devoir qu'elle nous fait, la Shoah, de préparer pour demain un monde meilleur et plus juste. Mais cela a demandé au moins plus de 40 ans. C'est l'histoire, il faut la faire, ce qui ne veut pas dire qu'elle va nous diviser. Au contraire, elle est notre histoire à nous tous. À un moment, il faut aussi ne pas oublier, c'est extrêmement important de ne pas oublier, mais aussi se demander comment on se réconcilie. Devoir d'histoire, devoir de réflexion, que ce livre témoignage. En avril 2005, 2 ans avant l'apparition d'Une vie, qui est son grand roman autobiographique, elle en a écrit 3 autres, donc ça fait 4 avec celui-là, Simone Veil prononce une conférence devant les élèves de la rue d'Ulm. Inédit, le texte qui en est issu constitue une véritable adresse à la jeunesse. Elle y évoque sa déportation et celle de sa famille, sa mère Yvonne, qui a su la protéger jusqu'à sa mort du typhus dans le même camp où elle se trouvait. À la fin, le sort des enfants cachés en France, car ils ont quitté leurs parents et ils attendaient le retour de leurs parents. Ils ont été adoptés, entre guillemets, par des familles françaises en France, mais aussi les Juifs, car, dit-elle, si les 3/4 de la population juive de France avaient échappé à la mort, ce fut du fait de l'existence en France d'une zone libre, puis de l'occupation italienne pour tous ceux de la région de Nice, parce que les Italiens n'étaient pas trop revendicatifs, mais aussi parce que nombre de Français avaient tenu à prouver que les Juifs, demeuraient à leurs yeux des hommes et des femmes, j'ai ajouté, à part entière. Dans cette conférence, c'est le sujet de ce livre, dans cette conférence, elle parle aussi de la mémoire de la Shoah, de sa transmission aux nouvelles générations, d'où le titre, la réconciliation et l'unité européenne, car elle a participé à cette unité européenne. Le rôle de la fiction, c'est-à-dire de l'écriture, plus encore que l'audio, le film, parce qu'il y a des tendances, des interprétations qu'elle n'aime pas trop, et de la jeunesse pour ne pas oublier les tragédies du passé. Il y a un mot qui revient chez elle, c'est le mot « nuance ». Il faut arriver à nuancer les faits. Alors, elle est née à Nice. Elle est issue d'une famille juive et laïque. Elle a été déportée avec sa mère et sa sœur dans les camps d'Auschwitz, puis de Bergen-Belsen. Première femme, je dis bien première femme, secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, il faut le faire, ministre de la Santé, elle a fait parler d'elle, première femme présidente du Parlement européen, élue au suffrage universel. C'est une figure unanimement célébrée et respectée, qui reste vivante par ces livres que nous avons, dont celui-ci qui vient de paraître pour les générations futures, Simone Veil chez Albin Michel. Le deuxième récit, c'est un récit aussi, s'intitule « L'amour coûte que coûte ». On parle bien d'amour. « Coûte que coûte » de Claire Dirce, qui vient de paraître au Cerf, et je remercie Gilles Paris qui assure cette diffusion. Parce que c'est un grand livre qui me va droit au cœur. L'héroïne, Claire, c'est elle-même. Claire a 30 ans. Elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative qui la grignote chaque jour un peu plus. Elle souffre, mais elle a découvert que dans la souffrance, il peut y avoir beaucoup d'amour. Voilà ce qu'elle nous invite à découvrir par ce livre plein d'espérance, grâce à Dieu. Claire Dirks a vécu douloureusement, très douloureusement, elle a même rejeté l'euthanasie de son père, atteint de la maladie neurodégénérative qui la frappe à son tour, comme sa sœur jumelle, mais pas les deux frères. Elle lutte pour ne pas céder à cette tentation de l'euthanasie, admise en Belgique, aussi bien par les familles que par le corps médical. Elle a compris que sur cette terre, nul n'échappe à la souffrance. Rien ne sert de se torturer avec les pourquoi. Il n'y a pas de réponse. Ou le péché, c'est moi qui l'ajoute, mais elle n'y croit pas trop au péché. Pourtant, donc, la vraie question est: que faire de la souffrance? Alors qu'elle était déjà handicapée, Claire s'est mise en route au service des plus démunis. Elle est partie, malgré son handicap, à Cuba pendant 2 ans avec l'association Point Cœur, une très grande association, très efficace. Point Cœur. Et puis quand elle est rentrée en Belgique, au sein d'une maison Lazare, en colocataire, en communauté colocataire, ce qui fait qu'on s'entraide les uns les autres. Et ces deux activités ont porté beaucoup de fruits. Sa force d'avancer, de donner et d'aimer, c'est en Dieu qu'elle la puise. Cet ami d'enfance perdu de vue un temps, puis retrouvé à la fin de son adolescence. Un Dieu qu'elle interroge, malmène, un Dieu qui la surprend aussi, mais surtout, un Dieu qui la relève chaque fois qu'elle tombe, sans occulter aucune de ces difficultés qu'elle rencontre dans la vie quotidienne. Il a fallu qu'elle trouve un travail et un employeur qui la comprenne, qui la protège, et de l'aide parce qu'elle a besoin d'un chauffeur, elle ne peut pas se déplacer toute seule, et puis des soins, elle a besoin de soins, donc kiné, ergothérapeute, et puis d'autres personnes. Donc, sans occulter aucune de ces difficultés de la vie quotidienne, Claire témoigne que Dieu a besoin de nous pour se révéler chaque jour au monde. Avoir un cœur avec la capacité de donner et recevoir l'amour que la vie nous donne. Elle va même se marier alors que elle a plus de 27 ans, 30 ans, et qu'elle devrait être morte déjà. Elle donne une citation d'Isaïe que j'aime beaucoup, que je vous dis, que mon amertume, Isaïe, hein, c'est pas aujourd'hui, 38-17, que mon amertume se change en bien-être. On verra que dans d'autres cas, eh bien, l'amertume l'emportera sur le bien-être. Elle ajoute une très belle prière d'alliance, que je ne veux pas vous lire parce qu'elle est trop longue, mais il faut la lire, entre Dieu et elle et nous, les humains qui souffrons. Oui, une aventure magnifique, celle de Claire Dirks, L'amour coûte que coûte, qui est paru au Cerf. Car Jésus, même sur la croix, donne de l'espérance. Il pense à nous sur la croix. Mon corps, dit-elle, se dégrade, mais Dieu guérit mon cœur. Voilà, je m'arrête là pour ce très beau livre. Et j'arrive justement à l'hôtel Roma, qui est un roman, là, ce n'est plus des récits, c'est un roman, de Pierre Adrian, qui vient de paraître chez Gallimard. Pierre Adrian a retracé avec ce livre passionné le dernier été d'un écrivain, César Pavès, hanté par le suicide. Voilà. Lui, comme je l'avais dit, c'est l'angoisse de vivre, l'amertume, qui pour finir l'emporte sur la vie, la raison de vivre. Donc, voilà, César Pavès a choisi le suicide. Il a cherché dans sa vie et dans ses livres de quoi nous apprendre malgré tout le douloureux métier de vivre. Vous voyez, on parle encore là de douleur, le douloureux métier de vivre. Et j'en parlerai encore dans un autre roman à la fin, Le douloureux métier de vivre et d'écrire. Pavès apparaît au fil des pages comme un compagnon de route, taciturne, drôle, sincère. Au cours de ses errances en ville et dans les collines, ce qu'il aimait bien dans les collines, on croise Monica Vitti, l'actrice si belle, et Antonioni, Calvino, des actrices américaines, dont Constance Dolling, avec qui tout aurait pu reprendre, et Maria Cristina Pinelli, très jeune, la dernière peut-être trop jeune, qui n'a pas su entendre son appel. Mais aussi la fille à la pommade qui déambule aux côtés du narrateur, c'est-à-dire de Pierre Adrian, sur les traces d'une ombre qui aurait pu, là aussi, stopper l'inévitable, la mort le 27 août 1950 à Turin, chambre 49 de l'hôtel Roma. Oui, dans ce livre, on navigue dans ce Piémont, devenu le lieu éblouissant des retrouvailles avec l'être aimé. Avec ce nouveau récit au charme furieux, Pierre Adrian nous donne à contempler une Italie d'après-guerre en noir et blanc, où la littérature et la politique sont une question. Cette Italie d'après-guerre, il y a eu l'Italie de la guerre aussi, de l'après-guerre, c'est une question de vie ou de mort, où rien n'est jamais grave, mais où le tragique finit par s'inviter. Et il faut relire son journal, texte intégral qui vient de paraître en folio et qui s'intitule « Le métier de vivre ». Je vous en reparlerai prochainement, en octobre, le métier de vivre, journal. Pour saisir la grandeur de cet homme qui salue une dernière fois, je pardonne en disant « je pardonne à tous » et « à tous je demande pardon ». Ça va, point d'interrogation, pas trop de bavardage. Lui qui avait écrit de si beaux poèmes, j'y reviendrai, et Le Bel Été, un roman paru le 24 mai 1950, qui a remporté le prix Sresa, un grand prix littéraire italien. Voilà, je m'arrête pour l'Hôtel Roma de Pierre Adrian. J'aborde un quatrième livre, L'île du Lao, d'Adrien Borne, et puis on pourra écouter de la musique, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Nous sommes à Lyon dans ce livre, dans ce roman, à Lyon en 1948. À 15 ans, Marcel est atteint d'un mal contagieux. Lui qui a grandi à la Croix-Rousse, sans son père, doit quitter sa mère pour rejoindre le sanatorium de S, là, situé là-haut, niché sur le plateau d'Assis. Marcel découvre alors une société à part, où rôde la tragédie, mais règne le confort et l'abondance. C'était donc une faveur qu'avait pu obtenir sa mère, qu'il puisse aller là-bas, là-haut. Un lieu d'enfermement qui l'éloigne de son ami Andrea, puisqu'il est contagieux, il ne peut plus voir Andrea, mais de liberté pour l'adolescent qui, soudain, porte en lui toutes les promesses de l'existence. Car dans les interstices laissés par la maladie et les corps fragiles, c'est la rencontre. Il fera des rencontres, en particulier deux importantes, avec l'une avec l'excentrique Scala, sculpteur de figurines et puis de masques, et Valentine, une jeune fille ou jeune femme, qui sera son égérie, occupée à repeindre le mur de la crypte, appelée Notre-Dame des Neiges. En attendant que sa sœur guérisse de cette maladie et qui se retrouve aussi dans ce sanatorium de S. Oui, c'est la vie qui palpite dans ce lieu. Un monde ambivalent, en lutte contre la tuberculose, voilà le nom est donné, la tuberculose. J'avais dit que je vous parlerais de cette maladie terrible, une maladie mortelle, avant de trouver le vaccin, donc qui lui donne sa raison d'être. Mais lorsque la maladie sera vaincue grâce au vaccin en 1970, quelle trace restera-t-il de ce que Marcel et les siens ont vécu là-haut ? Justement, en visitant cette station en Haute-Savoie, à Assy, commune de Passy, on peut admirer la vue et le climat et l'église Notre-Dame de toute grâce, décorée notamment par Fernand Léger, Lursa pour les tapisseries, Rouault, le peintre Rouault, Chagall, Bazaine et d'autres. Peut-être, je ne m'en souviens pas, à la mémoire de toutes ces victimes mortes ou guéries de la tuberculose. Et puis nous arrêtons, nous stoppons et nous écoutons de la musique avec le grand Jean-Sébastien Bach, le concerto Brandenburg numéro 3, une musique qui l'emporte sur la souffrance. Thank you. part que c'est beau et que ça nous fait du bien. Et le cinquième livre, justement, est peut-être un remède à cette douleur ou à cette souffrance que nous pouvons éprouver, ressentir dans la vie de tous les jours. Ça s'intitule « La vie meilleure ». C'est de Étienne Kern et ça vient de paraître chez Gallimard. Nous sommes la somme de nos amours et c'est la seule chose qui restera de nous. Ça, c'est une phrase très belle, déclaration de Étienne Kern, voilà, qui se mêle à ce roman. Mais on l'a comparé à Gandhi, à Einstein, à Lénine. Des foules l'ont acclamé partout en Amérique et dans le monde. Des milliardaires lui ont tapé sur l'épaule. Les damnés de la Terre pendant la Première Guerre mondiale, les malades l'ont imploré. Aujourd'hui, son nom nous fait sourire, tout comme son invention, la méthode Coué. Mais, c'est moi qui l'ajoute, qui repose sur la confiance, la foi, la persuasion, des sentiments encore bien observés quotidiennement lorsque l'on prend des compléments alimentaires proposés par des laboratoires qui trouvent là des arguments pour que vous soyez fidèles à ces ingrédients, à la fois naturels, mais aussi scientifiques. Singulier destin que celui de Émile Coué, voilà, c'est le nom de ce grand personnage acclamé, Émile Coué, obscur pharmacien français à Troyes. C'est pourtant là qu'il comprend l'effet placebo et la confiance des clients. Donc, invention de la joie et de certaines guérisons lorsque ce n'était pas des grandes maladies. Son père, sa mère qui prie, qui croit au miracle de la guérison. Il fera une rencontre décisive avec Lucie Lemoine, qui deviendra son épouse, qui vient de Nancy, où son père Victor Lemoine est un horticulteur renommé qui fait des compositions éclatantes, nouvelles éclatantes. C'est l'époque Art déco de Nancy, donc une grande époque que l'on connaît bien quand même, une ville que j'aime. Lucie deviendra donc une épouse adorable qui va le soutenir, malgré des difficultés que vous découvrirez. Donc La vie meilleure retrace l'histoire de ce précurseur du développement personnel. Émile ira vivre à Nancy, rue Jeanne d'Arc. Il rencontre Bernheim, un grand médecin, et surtout un autre grand médecin, Liébo. Liébo qui pratique l'hypnose, qui deviendra son ami, son protecteur. Ce qui va le séduire et découvrir le pouvoir de la suggestion. Après, on ne peut plus s'en passer, dit Liébo, ce grand spécialiste. Le cas d'Annette, qui est bien présenté, elle a 11 ans, donc elle est jeune. Annette, une victime, elle est atteinte d'une hémorragie cérébrale, paralysie latérale, Elle a quand même retrouvé la parole qu'elle avait perdue, mais c'est tout, saccadée. Elle est alitée à l'hôpital. Émile entre, il est invité à entrer par la mère, s'assoit aussi, il apprivoise la situation. Il découvre des dessins réalisés par Annette représentant les arbres là en bas depuis la fenêtre. Il trouve que c'est très beau. Alors, si ta maman est d'accord, si tu es d'accord, je reviendrai te voir souvent et te faire imaginer ce que tu vois et fais quand tu dessines. Des séances d'hypnose. Et ça va marcher. Contrairement à ce qu'il pense au départ, ça va marcher. Une belle réussite, car lorsque les arbres seront de nouveau jaunes, Annette, par un effet de miroir, va pouvoir redessiner, se redresser et même se lever pour devenir une belle jeune fille. Voilà. Expérience qui le conduira à l'élaboration de la méthode Coué. Et donc à l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est ce qui nous permet de nous soigner. Émile ne veut plus soigner, mais aider à aller mieux, à tenir bon, à être heureux. Voilà sa sagesse. Ayez la certitude d'obtenir ce que vous cherchez et vous l'obtiendrez. Vous êtes mes amis. Et non mes clients, vous êtes mes amis. Un homme sincère qui croyait plus que tout au pouvoir des mots et de l'imagination. Avec ce roman lumineux, aux accents intimes, on découvre vraiment leur vie à tous les deux et à d'autres personnes, Étienne Kern rend hommage à ceux qui cherchent coûte que coûte une place pour la joie. Alors, je le dis en post-scriptum, pour ceux qui connaissent Nancy ou qui peuvent aller à Nancy, qu'il existe tout un circuit Coué à Nancy, avec la maison de Liébo, à côté de la faculté de pharmacie, où il a fait des conférences, le parc Sainte-Marie, les Magnolia somptueux au printemps, des allées, une ombre, une statue, c'est Victor Lemoine. Son monument, on le voit avec une barbiche et un visage dur. À quelques pas de là, il y a un grand piédestal type art déco. Et au sommet, nous pouvons voir Émile Coué, une statue d'Émile Coué, nœud papillon barbiche. Et puis une inscription à Émile Coué, date de naissance 1857, mort en 1926, à l'initiateur et à l'homme de bien, en reconnaissance mondiale. Ça, c'est vers la rue Jeanne d'Arc de Nancy, pour ceux qui peuvent y aller. Voilà pour ce remède, miracle, on pourrait dire, la vie meilleure d'Étienne Kern qui vient de paraître chez Gallimard. Alors, je reparle d'un livre, d'un grand roman. C'est toujours un grand roman, comme le précédent. L'invisible Madame Orwell de Anna Funder qui vient de paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson. Pour moi, c'est un grand livre, pour deux raisons. Grâce aux lettres et aux témoignages des proches de Hélène O'Shaughnessy, c'est son nom, de cette Madame Orwell. Hélène O'Shaughnessy, que Anna Funder a retrouvée. Elle soulève le voile sur la vie des Orwell. Elle s'est penchée sur les œuvres magistrales de Orwell, sur les biographies qui lui ont été consacrées. Mais justement, dans ces biographies, de cette existence commune depuis leur mariage en 1936, peu de biographes parlent de cette première épouse, d'où le titre « L'invisible Madame Orwell ». La deuxième raison, donc, il était temps de lui rendre justice, de la sortir de l'ombre et du patriarcat, parce qu'il y a cette idée du patriarcat qui résiste encore, même de nos jours, qui fait qu'on considère que c'est normal presque qu'une femme soit peut-être une esclave, qu'elle fasse tout à la maison. La deuxième raison, c'est qu'on redécouvre les Orwell dans leur intimité. La première année, ils vivent chez les parents. Il s'appelle Eric Blair. Et c'est lors de son premier texte publié qu'il choisira le nom de George Orwell pour ne pas déplaire à son père. Ils vont vivre ou survivre dans un cottage rustique, sans électricité, un poêle rudimentaire pour le chauffage, un seul robinet à Wallington. Alors qu'elle est issue d'une grande famille, qu'elle fait des études de psychologie à Oxford, qu'elle vivait à Londres avec sa mère, même si elle séjournait le plus souvent chez Laurence, son frère, et Gwen, sa femme, tous les deux médecins, dans leur grande demeure en face de Greenwich Park. Donc, c'est à tout cela qu'elle va renoncer pour suivre Eric et lui assurer le nécessaire, qu'il puisse écrire, c'est sa vocation. Elle va même le soigner lorsqu'il tousse, soi-disant, d'une bronchite, et taper ses textes et cherche un éditeur, un très bon éditeur qui lui sera très fidèle. Lui qui avait connu la Birmanie, ensuite, il désire partir et joindre la guerre civile en Espagne. Égoïstement, il annonce son départ. Elle réplique que c'est une bonne idée, qu'elle trouvera quelqu'un pour s'occuper de leur cottage et de la chèvre et de l'épicerie. Il y avait une petite épicerie qu'il tenait pour aller le rejoindre, enfin le retrouver plus tard, pour aller à Barcelone. Et à Barcelone, eh bien, elle lui sera très utile qu'il puisse écrire son premier grand texte, Hommage à la Catalogne. Ensuite, eh bien, ils retourneront vivre à Londres. Ils arrivent à Londres, qui est en guerre avec l'Allemagne nazie, et les bombardements nombreux sur Londres. Il faut s'enterrer, même si pour George Orwell, c'est difficile de s'enterrer. Vient l'écriture de la ferme des animaux. Plutôt que d'affronter directement Saline, parce que Saline, c'est le cauchemar de George Orwell. George Orwell qui veut éliminer les gens qui ne l'apprécient pas. Alors ils vont écrire ensemble une fable Car il faut dire aussi qu'à ce moment-là, la Russie lutte contre l'Allemagne nazie. Donc il ne faut pas affronter la Russie et Staline. Et ce sera un grand succès. En 1945, il part en suivre en France. Il part en France parce qu'il veut suivre les débarquements, les différents, et aller jusqu'en Allemagne. La laissant seule pour faire les démarches d'adoption de leur fils Richard, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, ils ont fini par adopter un petit Richard. Un bébé, elle est bien la seule pour faire toutes ces démarches et pour réussir à ce que ce garçon devienne leur fils. Mais elle est bien la seule aussi pour affronter sa maladie, parce qu'elle se dépense trop, donc elle a une tumeur qu'elle ne soigne pas très bien, une anémie profonde, une souffrance terrible qu'elle minimise dans sa dernière lettre qu'elle lui écrit. Elle songe aussi à Richard, s'il devait hériter de l'enfant dès l'enfance et d'avoir des tuteurs capables d'utiliser cet argent. Il y a là une incompréhension totale sur son état de santé alarmant. Et elle est morte le 29 mars 1945, suite à une opération fatale. C'était trop tard, on ne pouvait plus l'opérer. L'anesthésie, tout ça, bon, elle a perdu la vie. Après ce deuil terrible, pendant le reste de sa vie, Georges a cherché plus ou moins désespérément une femme, voire toute une équipe, puisque cette femme, première femme, Hélène, eh bien, elle a réalisé beaucoup de choses, voire toute une équipe qui puisse la remplacer. À Paris, pour lui, finit la belle vie parce que ses poumons sont dans un état terrible. Tuberculose, voilà. La maladie est bien là, même s'il la minimise aussi un peu, et qu'il doit s'en aller à Londres, où il découvrira vraiment la mort d'Hélène. Il n'existe plus de chemin apparent pour aller de l'avant. Il me paraît tout à fait essentiel que tu te remettes à écrire un autre livre après La ferme des animaux. C'est ce que disait Hélène. Ils ont parlé de ce livre pendant des années, intitulé 1984, qui sera aussi son grand livre. Le titre est tiré d'un de ses poèmes à Hélène, 1984, et qui sera édité. Et c'est Sonia Sonia Bronnel, qui au sanatorium vient revoir Orwell et boire du rhum avec lui, et qui pour finir va accepter d'être la deuxième épouse. Il est revenu à Londres, à l'University College Hospital, mariage, il y aura bien le mariage, et la mort alors qu'il pensait pouvoir partir à la pêche, et la mort en 1949. Voilà, donc je voulais vraiment en savoir plus sur l'intimité des Orwell, et avec l'invisible Madame Orwell de Anna Funder, qui vient de paraître aux éditions Héloïse d'Ormesson, eh bien, j'ai tout ce que je voulais savoir. Voilà. Et vous aussi, vous pourrez en apprendre beaucoup sur les Orwell. Aussi bien Orwell. Ah oui, Sonia s'occupe de tout, de sa correspondance, et lui tape ses textes, et elle prendra son héritage littéraire en tant que veuve. Quant à Richard, ce qui demeure avec Avril qui est la sœur de Georges, il grandit tranquillement auprès d'elle, et ainsi que l'avait prédit Hélène, s'engage dans une carrière d'ingénieur agricole, spécialiste dans les tracteurs. Voilà, donc, il aura un bel avenir. Et donc, je termine cette chronique par cette citation de George Orwell, où on retrouve la douleur, chose chère à César Pavèze. Écrire, dit-il, écrire un livre est un combat épouvantable, éreintant, qui s'apparente à un long épisode maladif et douloureux. Vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Pour se lancer dans pareille entreprise, il faut être possédé par un démon qui ne peut être ni compris ni combattu. C'est paru dans « Pourquoi j'écris » paru en 1946. Peut-être pour lui une façon d'excuser son comportement vis-à-vis d'Hélène. Merci donc à Anna Funder d'avoir fait revivre pour nous, sous nos yeux, Hélène Ochougnissi, qui était réduite à un rôle de subalterne, mais qui est bien vivante et qui a bien été derrière l'auteur légendaire de 1984. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, j'ai encore l'Italien, un livre à présenter. Ce sera le dernier. L'Italien d'Arturo Pérez Reverte, qui vient de paraître chez Gallimard. Avec ce nouveau et dernier roman d'Arturo Pérez Reverte, il nous plonge directement au sud de l'Espagne, entre Algésira et Gibraltar, avec des cartes jointes, car c'est un roman historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elena Arbué, l'héroïne de cette aventure, est une libraire, à Algésira. Une jeune veuve dont le mari a été tué au cours de l'attaque contre la marine française de Marcel Kébir. Elle voit alors son destin chamboulé par hasard. Lors d'une balade sur la plage, elle découvre le corps d'un homme blessé, ramené par la mer. En lui sauvant la vie, elle se retrouve impliquée dans des opérations militaires qui jouent sous ses yeux. Car cet homme, appelé Teseo Lombardo, fait partie d'un groupe de plongeurs de combat italien qui s'infiltre par la mer vers le port de Gibraltar à dos de torpilles autopropulsées pour déposer des charges explosives sous les bateaux ennemis, les Anglais. Par désir d'aventure, ou peut-être pour retrouver cet homme, l'Italien, ou peut-être pour venger son mari, donc face aux Anglais, Helena, c'est son nom, Helena aussi, décidera de participer secrètement aux opérations de sabotage. Elle aura la possibilité de franchir ce qu'on appelle de franchir la frontière, c'est-à-dire la barrière, jusqu'à Gibraltar, où le danger l'attend, très loin, quoiqu'elle a un alibi, de ses livres et de la vie de solitude à laquelle elle se croyait condamnée. Arturo Pérez Reverté, qui a mené des enquêtes précieuses, se met en scène en tant que journaliste d'investigation. Il nous réjouit d'un jeu intelligent entre histoire et fiction. Ce livre est un roman de mer, de guerre et d'amour. Oui, car l'amour est magnifique dans ce roman. Même s'il n'est pas vraiment dit, l'amour. Car Helena tombera dans un piège mortel et seul son amour plus fort que la souffrance qu'elle va devoir endurer pour Théseo, son amour plus fort que la souffrance pour Théseo, lui permettra de s'en remettre et de le retrouver vivant, car il a été fait prisonnier. L'auteur nous raconte avec brio cet épisode oublié de l'affrontement entre les hommes de la Royal Navy et les commandos italiens en Méditerranée. Oui, ça va de là, de Gibraltar, jusqu'à Alexandrie. Voilà. Et je m'arrête là. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de livres, de 7 livres. Il y en avait encore un, mais Des jardins secrets remplis d'orties de Dominique Bertrand, qui vient du Québec, mais je vous en parlerai le mois prochain. Au revoir.